rozumią tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour un nouveau club de la presse européen. Un peu partout, de Tallinn à Lisbonne et de Stockholm à Athènes, les terrasses rouvrent et avec le printemps, les Européens retrouvent peu à peu le sourire. Dans certains pays comme la France, le pari de ressortir les terrasses est osé car le virus est encore très virulent. Mais le taux de vaccination qui progresse de jour en jour permet un petit regain d'optimisme. Désormais, on vaccine proportionnellement davantage au sein de l'Union Européenne qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. L'économie anémie repart et le plan de relance européen encore bloqué par certains pays devrait donner le coup de pouce nécessaire pour une reprise plus soutenue. Ce n'est pas encore le retour au monde d'avant, mais déjà plus tout à fait le temps du confinement strict. Nous allons faire un mini tour d'Europe du retour de l'espoir. Deuxième sujet que nous aborderons dans ce Carrefour de l'Europe spécial Club de la Presse, la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il y a une semaine exactement le dimanche 9 mai, jour de la fête de l'Europe, a été lancée solennellement du Parlement de Strasbourg, la conférence pour l'avenir de l'Europe. Mais on ne voit pas forcément l'avenir de la même façon quand on est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de l'Europe. Le club de la presse de Carrefour de l'Europe avec 5 journalistes européens, c'est parti. Je vous les présente par ordre alphabétique. Bonjour, Jean-Luc Pavou, à Budapest le soir de Bruxelles, le temps de Lausanne. Yapot Kivanok, l'ai-je bien dit?
Oui.
Bonjour,
pratiquement bien, il y en a pas de qui va, donc.
Bonjour, Paolo Levi, buongiorno.
Buongiorno.
Agence italienne de presse ANSA à Rome. Sacha Mitchell, hello, Courrier International. On va parler des îles britanniques. Vous êtes au Courrier International, le journaliste qui s'occupe non pas de la totalité du monde anglo-saxon, mais en tout cas des îles britanniques, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et l'Irlande. Bonjour, Sacha.
Hello, Daniel. Oui, tout à fait.
Elena Petaisto, hey.
Hey, hey.
Bonjour Elena, en direct d'Helsinki, MTV, la télévision finlandaise, et puis Guten Tag, Guten Abend, Pascal Thibault.
Oui, bonjour Daniel depuis Berlin.
RFI Berlin, bien évidemment. Alors avant d'entrer dans le vif de nos sujets, un premier petit tour d'Europe sur l'actualité qui fait la une dans vos pays. Je commence par vous, Joël Le Pavou, à Budapest. C'est le projet d'une université chinoise qui fait couler beaucoup d'encre, l'université Fudan. Une université dans la droite ligne du Parti communiste chinois, voulu par le très illibéral Premier ministre hongrois Viktor Orban.
Oui, une université qui symbolise en quelque sorte le rapprochement qui a été entrepris entre Budapest et la Chine depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis Fudan, c'est pratiquement 26 hectares de terrain sur les bords du Danube dans le 9e arrondissement de Budapest. C'est un projet qui ne plaît absolument pas à l'opposition et en premier lieu au maire de Budapest, Gergely Karácsony, le maire écologiste, qui, comme la maire d'arrondissement, Krisztina Boroni, veut lancer un référendum, un vote d'initiative locale pour refuser l'installation de cette université.
Alors, une université étrangère, il y en avait une à Budapest, elle a disparu, elle a été évincée par Viktor Orban. C'était l'université d'Europe centrale financée, aidée par George Soros. Elle a dû se réfugier à Vienne. Donc, bye bye l'université européenne et bienvenue à l'université de Xi Jinping. C'est un peu ça le débat à Budapest en ce moment?
Ben, c'est ce que met en avant l'opposition, effectivement, que le gouvernement Orban n'a pas ménagé ses efforts pour faire en sorte que l'université d'Europe centrale plie bagage en direction de l'Autriche voisine. Et aujourd'hui, littéralement, il déroule le tapis rouge, un peu comme la couleur du Parti communiste chinois, à l'université Fudan, qui devrait former entre 5 et 6 000 étudiants de niveau master chaque année.
Alors l'université Fudan, c'est pas forcément, elle est forcément dans la droite ligne du Parti communiste, c'est pas forcément la plus démocratique des universités qu'on puisse imaginer.
C'est clair, et puis de toute façon, l'université a juré en quelque sorte fidélité, conclu un pacte de fidélité avec le Parti communiste chinois. Alors le gouvernement Orban se défend de vouloir implanter toute formation idéologisante en Hongrie dans la droite ligne du Parti communiste chinois. mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille, et elle dénonce une manière pour Pékin de placer ses pions en Hongrie, ce qu'elle fait déjà depuis pratiquement une dizaine d'années.
Paolo-Olivia Rome, on se félicite du retour d'une entente de plus en plus cordiale entre l'Italie et la France. Alors il faut rappeler que l'on vient de très très loin, à l'époque où Matteo Salvini, le leader d'extrême droite, était au pouvoir. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, et à ce moment-là, les relations entre Paris et Rome étaient au plus mal.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu un revirement spectaculaire dans les relations entre la France et l'Italie, notamment après la nomination à la tête du gouvernement de Mario Draghi, qui est vraiment très très proche de Emmanuel Macron. Et ces jours-ci même, c'est la chronique de ces jours, l'annonce, la décision historique d'Emmanuel Macron d'accepter les requêtes d'extradition envoyées depuis 40 ans de l'Italie pour ce qui concerne les anciens terroristes, les anciens brigadistes rouges réfugiés en France avec la doctrine Mitterrand. Et ça, en quelque sorte, a été un pas fondamental qui aujourd'hui vraiment insuffle une confiance vraiment de ciment entre nos deux pays, et c'est d'autant plus fondamental parce que cela sera nécessaire, l'entente, l'unité, j'ose dire, franco-italienne est maintenant nécessaire pour aborder les grands chantiers européens qui nous attendent dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je pense à, par exemple, à la réforme du pacte.
On va revenir, Paolo-Olivia, à tout ça, évidemment. Là, ce qui fait l'avenir de l'Europe, ce sera évidemment la troisième partie de cette émission. Sacha Mitchell à Londres, c'est bien sûr le succès des indépendantistes écossais du SNP au lendemain des élections locales qui mobilise les esprits à Londres.
Absolument, c'est un peu l'elephant in the room, outre-Manche, cette question écossaise. Les indépendantistes, ils ont nettement remporté les élections législatives locales, donc c'était jeudi 6 mai, et de l'avis d'à peu près tout le monde, y compris les journaux unionistes et les unionistes, donc les anti-indépendance, ça donne une légitimité au Parti national écossais, au SNP, pour organiser dans les années à venir un nouveau référendum sur l'indépendance. Donc c'est l'actualité en ce moment, mais ça risque fort d'être un fil rouge dans les années à venir. On ne se dirige pas très clairement vers un référendum dans les mois à venir. Il y a encore le gouvernement à la fois à Londres et le gouvernement local écossais sont trop monopolisés par le Covid. Boris Johnson dit non pour le moment. Nicola Sturgeon, la première ministre d'Écosse, vise d'ici 2023. Mais en tout cas, on se dirige vers un bras de fer entre Sturgeon et Johnson. Un bras de fer plus pour l'image que réellement, parce que pour le moment, en fait, l'organisation d'un référendum n'arrange ni l'un ni l'autre. Dans les sondages, c'est très très serré, on est proche du 50-50. Ce serait risqué à la fois pour Johnson, mais aussi pour Sturgeon, qui risquerait de le perdre une nouvelle fois. Mais oui, ces élections du 6 mai en Écosse, comme le dit le Financial Times, elle a en quelque sorte allumé une mèche lente sous l'unité du Royaume-Uni.
À Helsinki, Elena Pitaisto, les Finlandais vont-ils remettre en cause le fameux plan de relance européen, le fameux plan de relance européen post-Covid de 750 milliards d'euros? Il faut rappeler que chaque pays doit présenter un plan d'utilisation, un programme, un projet d'utilisation de ces fonds qui seront alloués par l'Union européenne et qui doivent assurer à la fois une transition écologique et un renforcement du numérique, entre autres. Et puis à Helsinki, le parti populiste Les Vrais Finlandais menace de tout bloquer. On en est où, Elena Pitaisto?
Vraiment, oui, on peut dire que la Finlande est en train de mettre les bateaux dans les roues européennes. C'est un vrai cirque ici en ce moment. Et rarement on a eu des débats aussi houleux sur l'Europe qu'en ce moment. Alors, ça veut dire qu'il y a eu même des nuits blanches au Parlement finlandais. Du coup, les Finlandais se sont révélés le peuple le plus critique vis-à-vis du plan de relance européen. Il y a deux éléments clés, comme on a entendu. Donc, c'est vraiment le parti populiste eurosceptique, les Frères Finlandais, qui est le deuxième parti politique du pays. Donc, il a du poids. Ils ont pris le plan de relance pour le cheval de bataille pour les élections municipales qui vont être organisées au mois de juin. Alors voilà la situation un peu compliquée.
Alors on va voir avec le temps, on le saura dans quelques jours, dans quelques semaines ou plus tard, si les Finlandais bloquent la marche de l'Europe pour le lancement de ce fameux plan de relance de 750 milliards que bien des Européens attendent, et notamment par exemple les Français, les Italiens, les Espagnols, mais pas seulement. À Berlin, Pascal Thibault, le climat est au cœur du débat politique et bien sûr de la campagne électorale qui entre dans une phase très active avec des sondages qui donnent les Verts en tête, car évidemment, il ne faut pas l'oublier, ce sont les derniers mois d'Angela Merkel à la chancellerie de Berlin.
Oui, effectivement, les Verts sont même actuellement en tête des sondages devant les chrétiens démocrates. Alors, ce ne sont que des sondages et les retards des élections dans 5 mois peuvent être différents. Mais en tout cas, c'est une petite révolution politique si elle devait se confirmer. Et donc, on parle beaucoup de la candidate verte à la chancellerie, Annalena Baerbock. Et on parle beaucoup de climat, non seulement en raison de la performance des Verts dans les sondages, mais aussi parce que c'est évidemment le sujet dominant. On voit aussi à travers les sondages, lorsqu'on demande aux Allemands quels sont les sujets qui les interpellent, qui les intéressent, eh bien, à part la pandémie de Covid, eh bien, c'est le climat qui reste le sujet numéro un. Et le gouvernement a dû s'activer, s'est activé même très très vite. Il a fallu des mois en 2019 pour accoucher laborieusement au sein de la Grande Coalition d'une loi sur la lutte contre le réchauffement climatique pour les 10 ans qui viennent. Et puis là, après un arrêt de la Cour constitutionnelle, eh bien, en 2 semaines, on a accouché d'une nouvelle version de cette loi adoptée cette semaine. On sent bien que la pression des Verts est importante et que le gouvernement veut tout faire pour montrer que lui aussi, il agit sur ces dossiers.
Mais évidemment, à suivre des élections en septembre en Allemagne.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Avec la baisse de la virulence du virus et la généralisation de la vaccination, aujourd'hui au sein de l'Union européenne, un citoyen sur 3 environ a reçu au moins une première dose de vaccin. Un peu partout en Europe, terrasses, restaurants, cinémas, salles de sport, théâtres sont en train de rouvrir avec des spécificités en fonction de chaque pays, bien sûr. Et d'une manière générale, petit à petit, les Européens retrouvent le sourire. Sacha Mitchell, au Royaume-Uni, après une gestion un peu catastrophique de la pandémie, le pays est l'un des plus meurtris en Europe. Boris Johnson vante une campagne de vaccination réussie et qui porte déjà ses fruits. Hein.
Tout à fait. Le Royaume-Uni a pris le parti d'un confinement assez tôt dans l'année, dès le début du mois de janvier, assez strict avec la fermeture des écoles, mais aussi avec un protocole ensuite de sortie de ce confinement qui était très lisible. Toutes les 5 semaines, la société a commencé à rouvrir à partir de mars, avec en parallèle le déploiement du vaccin qui a été très efficace. Aujourd'hui, on est à peu près à entre 65 et 70% de la population adulte qui a reçu au moins une dose, 30% les deux doses. Et ça permet du coup d'effectivement de mettre en œuvre cette rouverture. Vous parliez des terrasses, elles sont rouvertes depuis mi-avril en Angleterre. Et lundi, donc demain lundi 17 mai, les Britanniques pourront même commencer à boire des pintes à l'intérieur aussi, à retourner au pub en intérieur. Et on note aussi qu'avec cette bonne campagne de vaccination, ils pourront aussi recommencer à aller à l'étranger à partir du 17 mai sur une liste de pays dites vertes, qui comprend notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et pour laquelle il n'y aura pas besoin de se mettre à l'isolement au retour au pays. Donc pour le moment, tout se passe bien, effectivement, en Angleterre et globalement dans le reste du Royaume-Uni aussi.
La confiance revient. Alors cela dit, lorsqu'ils prennent des vacances, les Britanniques vont plus souvent en Grèce, en Italie, en Espagne qu'en Australie. Pour ces pays-là, pour l'instant, la frontière est fermée, les possibilités de voyage sont fermées. Ça peut encore évoluer, bien évidemment, mais où en est-on ?
Alors, a priori, donc ça c'est la question qui va être posée, parce que donc cette liste verte, pour le moment la France par exemple est en couleur orange, en couleur ambre, donc c'est le deuxième niveau, et cette liste elle va être mise à jour toutes les 3 semaines, voilà, à partir du 17 mai. Donc on croise les doigts pour pouvoir effectivement aller en Grèce, aller en Espagne le plus rapidement possible, ou en tout cas peut-être cet été, sinon sinon, à défaut, il y a toujours les staycations qui ont la côte encore au Royaume-Uni, des vacances dans les Cornouailles, par exemple, sur les belles plages de Cornouailles. Mais pour le moment, voilà, tout va dépendre aussi de la situation épidémique sur le continent et au sein de l'Union européenne pour la mise à jour de cette liste verte au départ de l'Angleterre.
J'espère qu'on pourra accueillir les Britanniques parce que ça fait très très longtemps maintenant qu'on n'a pas vu des Britanniques en grand nombre en France, et on sait que les Britanniques aiment beaucoup la France, notamment le Sud-Ouest. Un petit mot sur Boris Johnson, il a toujours quelle est sa cote de popularité? Est-ce que les Britanniques lui font confiance ou pas du tout? Parce qu'à la fois il y a un énorme échec et puis une vraie réussite.
Eh bien, écoutez, on parlait des élections du 6 mai. C'était un super jeudi électoral parce que les Écossais renouvelaient leur parlement local, les Gallois renouvelaient leur parlement local également. Et puis, il y avait des élections municipales, territoriales en Angleterre. Et ça a été une très, très belle journée pour les conservateurs de Boris Johnson, grâce notamment à sa cote de popularité qui reste assez élevée, à mettre notamment grâce en grande partie à la bonne réussite de la campagne vaccinale qui a contribué à ce succès. Et donc oui, pour l'heure, Boris Johnson, en tout cas, a réussi avec cette campagne vaccinale à faire oublier un petit peu l'année dernière la première partie de la pandémie qui a été assez catastrophique. Vous le disiez, ouais, le Royaume-Uni, au niveau du bilan humain, c'est le pays le plus endeuillé d'Europe.
Ou en tout cas l'un des plus endeuillés. Merci Sacha Mitchell, le courrier international. Bah, direction Budapest avec vous, Joël Lepavou, le soir et le temps. La Hongrie connaît une situation un peu plus paradoxale. Viktor Orban a fait appel aux vaccins chinois et russes, en plus des vaccins commandés via l'Union européenne. Le taux de vaccination est l'un des plus élevés en Europe. On est autour de 50% de la population qui est vaccinée. Mais le pays affiche aussi, et c'est paradoxal, le plus fort taux de mortalité au monde, avec près de 300 décès pour 100 000 habitants. C'est même plus que les Britanniques. Alors, est-ce qu'il y a une explication à ce paradoxe, Joël Lepavou?
Bah écoutez, l'explication, elle pourrait se trouver à la fois dans l'état du système de santé, ou en tout cas dans le manque de personnel qualifié, puisque beaucoup de médecins et d'infirmières sont partis chercher fortune à l'ouest, où ils pouvaient bien mieux gagner leur vie, mais aussi dans l'état de santé général des Hongrois, puisque il y a une très large importance non seulement des maladies chroniques, mais aussi de l'obésité et des autres facteurs de comorbidité qui ont accéléré en quelque sorte la mortalité en Hongrie due au coronavirus. Donc ce qui fait aujourd'hui qu'en Hongrie on a un bilan qui est assez lourd, hein, au-delà de 28 000 morts, ce qui est très significatif et représentatif pour un pays de 9,7 millions d'habitants. Mais comme vous le disiez à l'instant, on a un taux de vaccination, en tout cas de première injection reçue, qui tutoie les 50%, puisqu'on est à peu près à plus de 4 391 000 Hongrois vaccinés. Et c'est effectivement, comme vous le soulignez en début d'intervention, grâce notamment aux vaccins russes et aux vaccins chinois dont Orban vantait les mérites et qu'il a lui-même choisi de se faire injecter au début de la pandémie.
Alors justement, est-ce que les Hongrois sont les seuls citoyens en Europe à pouvoir choisir en théorie entre les vaccins occidentaux, l'AstraZeneca, le Pfizer, peut-être le Moderna, et puis le vaccin chinois et le vaccin russe? Est-ce qu'ils ont une préférence, les Hongrois, ou finalement, ben, un vaccin, c'est un vaccin?
Écoutez, Daniel, quand par exemple on vous donne littéralement le choix, les Hongrois ne vont pas fondamentalement aller vers les vaccins dits orientaux, puisque Orban fait la séparation entre Pfizer, AstraZeneca, Moderna et orientaux, donc Sinopharm et Sputnik V. Et quand vous regardez un peu la cartographie, on va dire, de la vaccination hongroise, vous verrez que en province, on est plutôt sur une domination des vaccins dits orientaux, donc Sinopharm et Sputnik, tandis qu'à Budapest, si possibilité est donnée et si créneau il y a, alors les gens vont plutôt choisir les vaccins occidentaux.
Et qu'est-ce qui est ouvert en fait en ce moment à Budapest et dans le reste de la Hongrie? Les restaurants, les bars, c'est ouvert, c'est fermé?
Alors, tout est ouvert, mais il y a une séparation, on va dire, entre les personnes détenant ce qu'on appelle un certificat d'immunité, c'est-à-dire une carte plastifiée qui est transmise par la poste normalement dans les 8 à 10 jours après la première injection, et ceux qui ne sont pas détenteurs de ce précieux sésame. Mais en tout cas, Budapest, quand par exemple dans mon cas, on n'est pas encore détenteur de ce fameux certificat d'immunité, on peut néanmoins aller boire une bière en terrasse ou manger un goulash sur la terrasse d'un restaurant, mais on ne peut en aucun cas ni rentrer dans le restaurant, ni rentrer dans le bar, ni aller au musée, ou au théâtre ou au cinéma, puisque ce sont des activités qui sont jusqu'à présent réservées aux détenteurs de ce certificat d'immunité.
Viktor Orban reste populaire ou pas en Hongrie, car là encore, un petit peu comme Boris Johnson, à la fois une réussite sur le plan de la vaccination et puis un échec patent en ce qui concerne le nombre de victimes dans son pays, la Hongrie.
Il y a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la pandémie et le recul de l'économie qui a été engendré par la crise sanitaire n'ont pas fondamentalement desservi la popularité du parti de Viktor Orban, bien au contraire, puisque quand on oppose Viktor Orban à la potentielle liste commune d'opposition qu'il affrontera lors des législatives de 2022, on se rend compte que le Fidesz, soit, alors en fonction des sondages, est au coude à coude avec la liste d'opposition, soit domine les autres partis dans les sondages. Et c'est justement compte tenu de la gestion de la pandémie en Hongrie, c'est assez paradoxal de voir que ce contexte est établi ou de voir que le Fidesz reste extrêmement puissant. Mais il faut savoir que dans les campagnes, en province, le discours de Viktor Orban, ce côté fierté hongroise, que ce soit dans le fait d'obtenir des vaccins ou d'être le seul pays de l'Union européenne à choisir des vaccins dits orientaux ou d'être l'un des pays les plus vaccinés d'Europe en proportion de population, eh bien, ce sont des choses qui parlent aux Hongrois et notamment aux Hongrois de province.
Merci Joël Le Pavot. À Rome, Paolo Levi, le pays très atteint par la première vague il y a un an a mieux appréhendé les vagues suivantes. On vaccine à tour de bras à Rome. Est-ce qu'il y a des réticences de la part des Italiens à se faire vacciner ou pas? Au contraire, les listes d'attente ne désemplissent pas.
Non, absolument pas. Il y a une vraie ruée vers les vaccins. C'est vrai que le vaccin AstraZeneca continue à susciter de la méfiance à plein temps de la population. Et c'est pour ça aussi qu'on fait presque de la braderie. Par exemple, aujourd'hui, on a annoncé dans le journal que samedi et dimanche, il va y avoir une sorte de festival d'AstraZeneca dans une sorte de foire à Rome. Il y aura 1 000 doses pour tout le monde. Donc vraiment, on cherche de ne pas faire même pas une seule pause parce que cette lutte contre le Covid est aussi une lutte contre le temps. Donc.
Paolo, les cafés et les restaurants ont ouvert pour le plus grand bonheur de la population. L'art de vivre à l'italienne est de retour et j'imagine que le sourire des Italiens aussi.
Oui, c'est drôle parce que ces jours-ci à Rome, on a un peu un avant-goût de ce que sera probablement Paris et la France à partir du 19 mai. C'est vrai que c'est en passant d'une ville à l'autre. Moi, j'ai fait le voyage de Paris à Rome il y a 2 jours. Et c'était impressionnant de revoir après cette fermeture les gens installés dans les terrasses des restaurants avec les nappes qui sont aux 4 épingles et tout le monde voilà à boire et à manger. Donc c'est un retour, la vie reprend progressivement ses quartiers et c'est vrai qu'en Italie, cet art de vivre comme en France est très très présent, disons dans notre identité commune, c'est vraiment un souffle d'air frais après des mois et des mois d'apnée. Maintenant il y a un débat d'un point de vue politique parce que Mario Draghi a promis qu'il y aura maintenant... En Italie, le couvre-feu est actuellement à 22h. Mario Draghi va voir s'il va pouvoir le repousser à 23h la semaine prochaine. Cela dépendra des chiffres qui vont sortir ces jours-ci. Et en revanche, de l'autre côté de l'échiquier politique, il y a Matteo Salvini qui souffle sur l'exaspération de la population et qui demande de tout réouvrir tout de suite, mais cela serait un grand risque parce que sinon on risque de se retrouver à nouveau avec des chiffres à la hausse. Donc Draghi il ouvre mais de façon progressive.
Il est prudent. Paolo Olivier, on espère des touristes étrangers cet été en Italie?
Oui, absolument. Comme partout ailleurs en Europe, le gouvernement est en train de faire les yeux doux aux touristes étrangers, notamment les voisins des autres pays européens qui représentent la majorité écrasante des fréquentations touristiques en Italie. Et voilà, espérons qu'avec sur la libre circulation en Europe. Beaucoup d'Italiens puissent venir en France et beaucoup de Français puissent venir en Italie. Enfin, que, espérons que chacun ait à nouveau la chance de profiter de cette liberté de mouvement qui caractérise notre Union européenne et qui en fait sa fierté et sa force aussi.
Alors j'imagine qu'évidemment on est très attentif sur, alors on ne connaît pas encore le nom définitif, mais ce certificat vaccinal européen qui est en préparation en ce moment au niveau européen, qui devrait faciliter la circulation des Européens au sein de l'Union européenne. J'imagine qu'en Italie, on est très attentif sur la mise en place de ce, je vais l'appeler comme ça, certificat vaccinal européen, en attendant d'avoir le nom définitif.
Ben, disons, oui, on l'attend de pied ferme. La Commission européenne, si je ne me trompe pas, l'a promis et l'a annoncé pour le mois de juin. Et je pense que voilà, ça va être une promesse qui pourra être exaucée, même parce que voilà, tout est en route, surtout maintenant avec cette accélération quand même assez impressionnante de la campagne de vaccination un peu partout en Europe. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre en place au plus tôt.
Merci Paolo Levi à Rome. À Berlin, Pascal Thibault, fédéralisme oblige, chaque land gère le retour à la normale à son rythme et il peut y avoir de grandes différences entre Hambourg au nord de l'Allemagne et Munich tout au sud. Qu'est-ce qu'on peut faire à Hambourg qu'on ne peut pas faire à Munich et l'inverse et vice-versa?
Oui, c'est vrai, ce sont les charmes mais aussi parfois les inconvénients du fédéralisme qui rendent parfois un peu les choses un peu compliquées à comprendre pour la population quand on a des règles différentes. Alors il faut rajouter qu'après Pâques, on a adopté très rapidement au Parlement une loi qui permet, au-delà d'un taux d'incidence de 100, au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour réduire les possibilités de mobilité, notamment pour la population, pour essayer justement d'avoir un peu ce frein à ce panorama très très divers. Et donc dans les régions où le taux de naissance était plus élevé, c'était pratiquement l'ensemble de ces régions au départ. Entre temps, la situation s'améliore. Eh bien, il y a eu un couvre-feu qui a été introduit à partir de 22 heures, et un certain nombre de mesures valaient, notamment on refermait les magasins jugés non essentiels. Voilà, la situation aujourd'hui s'améliore, on estime même officiellement qu'on a brisé la troisième vague, et lentement le taux d'incidence global est dans les régions baissant, et bien les régions préparent maintenant la sortie, et notamment grosso modo dans pas mal de régions. Pour le week-end de la Pentecôte, un certain nombre de restrictions vont disparaître, les terrasses devraient réouvrir et petit à petit le tourisme aussi devrait redevenir possible, à commencer par les Allemands pour qu'ils puissent bouger au sein même de leur pays.
Pascal Thibault, il y a eu une petite querelle en Allemagne à propos des vaccins et sur l'achat des vaccins, et ça s'est fait au niveau européen, on l'a dit de multiples fois dans cette émission, et puis certains Allemands ont dit bah, c'est dommage que ce soit au niveau européen parce que ça limite le nombre de vaccins disponibles. Il y a toujours cette petite querelle, cette petite critique où c'est finalement maintenant, elle s'est estompée avec ces vaccins qui sont de plus en plus nombreux puisque la production fonctionne de mieux en mieux un peu partout et les restrictions sont de moins en moins grandes un peu partout en Europe et j'imagine en Allemagne aussi.
Alors, je dirais qu'on n'a pas critiqué le fait d'avoir choisi la voie européenne, sauf à quelques exceptions près. Ce qui a été critiqué, c'est la façon dont l'Europe a géré les contrats, le volume de ces contrats et on aurait pu peut-être avoir plus de vaccins disponibles dès le départ. Mais après, il y a aussi le problème des capacités de production. Bien sûr, il y a un peu ce paradoxe, c'est-à-dire qu'en Allemagne, on a des sociétés qui produisent des vaccins, mais solution européenne oblige et absence de restrictions à l'exportation, ces sociétés, à commencer par BioNTech à Mayence, ont exporté en Europe et de par le monde. Mais cette voie européenne, elle a globalement été soutenue. Je pense qu'une solution nationale aurait été certes, d'un point de vue égoïste, profitable à l'Allemagne, qui avait les moyens de passer les commandes. Mais je pense que pour l'image de l'Allemagne ailleurs en Europe, ça aurait provoqué une vague de germanophobie dont le pays a, je crois, bien peu besoin.
Les Allemands, ils prévoient des vacances sous le soleil grec ou croate ou plus sagement au sein de leur pays, de l'Allemagne?
Ben, ils espèrent, ils croisent les doigts, ils attendent le plus tard possible pour, comme tout le monde, pour faire des réservations. De plus en plus de responsables politiques, peut-être que les élections jouent aussi un rôle pour, dans ces déclarations, leur disent que, eh bien, l'été pourra être radieux et pourra permettre de passer des vacances dans d'autres pays. On a parlé du certificat vaccinal qui, évidemment, pourrait être une solution pour passer des vacances en Grèce, en Italie ou ailleurs. Et ici aussi, eh bien, pour les personnes vaccinées, elles sont de plus en plus nombreuses, eh bien, ça pourrait être une solution. Cette semaine, on a beaucoup parlé d'un gros problème pour les familles, c'est-à-dire que les parents pourraient être assez vite vaccinés, enfin assez vite d'ici l'été, mais il n'y a pas de vaccin pour les enfants. Alors, est-ce qu'on laisse les enfants chez les grands-parents en Allemagne et que les parents se remémorent leurs jeunes années et partent seuls, ce qui paraît quand même une solution assez peu praticable. Donc là, on voit, certes, on va sans doute lancer les vaccinations pour les enfants durant l'été, mais durant l'été seulement. Donc il y a des problèmes aussi pratiques et familiaux qui se posent.
En Finlande, Elena Petaisto, le retour à la normale ne veut pas dire grand-chose puisqu'il n'y a jamais vraiment eu de confinement et le pays était très peu touché par la pandémie.
Oui, exactement. C'est tout à fait vrai. Et je pense qu'il faut quand même rappeler que nous sommes le pays le moins peuplé de toute l'Europe.
C'est l'explication. Les forêts, les immenses forêts finlandaises, la faible densité de la population est une explication sur le fait que le confinement n'a pas vraiment eu lieu à Helsinki et le pays était très peu touché par la pandémie.
Ça, tout à fait logique parce que vous imaginez un pays qui a l'immense superficie de 3/4 de la France avec seulement 5,5 millions d'habitants. Et en plus, on est loin au nord, sur une presqu'île entourée de l'eau. Donc, nous avons vraiment été gâtés dans ce sens-là. Alors, depuis un an, il y a eu très peu de victimes, très peu de contaminations et très peu de restrictions aussi. Alors, les Finlandais, il faut dire, ils ne connaissent pas ni le confinement, ni le couvre-feu, même pas le port de masque obligatoire. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas souffert comme les autres. Mais le variant britannique a quand même changé le donne et les choses se sont gâtées il y a à peu près 2 mois, au sud du pays surtout et dans quelques autres régions aussi. Mais donc, il y a enfin eu un peu plus de restrictions et de fermeture des cafés, des restaurants et des bars, etc. Et évidemment, cinéma et musées aussi. Mais maintenant, on recommence à ouvrir de nouveau les terrasses et les cafés ou les restaurants où on peut aller même à l'intérieur, mais avec beaucoup plus de surveillance qu'auparavant. Et à ce moment, on ferme les bars et les cafés à 19h. Hein. Et au sud du pays, mais en Laponie ou au nord, on peut rester ouvert jusqu'à 23 heures. Mais un point important pour un pays comme la Finlande, il faut bien noter que les saunas publics sont restés toujours fermés.
Ce qui est évidemment très très important d'un point de vue finlandais. En tout cas, voilà. Tous les Européens envient un peu ou beaucoup les Finlandais. Merci Elena Petaisto en direct d'Helsinki.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
C'est le troisième mini-tour d'Europe de Carrefour de l'Europe spécial Club de la presse européen avec à Budapest Joël Le Pavou, correspondant pour le quotidien belge Le Soir et le quotidien suisse Le Temps, avec Paolo Levi à Rome, l'agence italienne de presse Ansa, avec Sacha Michel, courrier international en charge notamment des îles britanniques, avec Elena Petaisto, la télévision MTV à Helsinki, et Pascal Thibault, RFI Berlin. Alors dimanche dernier, nous étions le 9 mai, et le 9 mai c'est traditionnellement la fête de l'Europe, mais on ce dimanche 9 mai 2021, a été lancée du Parlement de Strasbourg la conférence sur l'avenir de l'Europe. Au départ, une idée d'Emmanuel Macron, reprise par l'ensemble des dirigeants européens avec plus ou moins de conviction et d'enthousiasme. En tout cas, une idée qui vise à associer tous les Européens à réfléchir sur l'avenir de l'Europe. Résultat de cet exercice de démocratie directe au cours du premier semestre 2022. Alors, l'Europe doit-elle être plus protectrice, gagner en autonomie? On a vu avec la crise sanitaire qu'elle dépendait beaucoup de la Chine, de l'Inde ou des États-Unis pour les masques, pour les vaccins, pour les médicaments. Quelle doit être la place de l'Europe entre les États-Unis et la Chine? Doit-elle s'affirmer en tant que puissance, ce qu'elle a fort peu fait jusqu'alors? Les concepts d'autonomie stratégique ou de souveraineté européenne sont-ils pertinents? Voilà quelques pistes de réflexion pour les Européens et sur lesquelles ils sont invités à réfléchir, et puis bien d'autres encore. Comment voit-on l'avenir de l'Europe? Comment est-il perçu du nord au sud et de l'est à l'ouest du continent? Pascal Thibault à Berlin, l'avenir de l'Europe vu de Berlin, ça dépend déjà du résultat des élections du mois de septembre.
Oui, bien évidemment, parce que c'est une ère qui s'achève, c'est une année et une élection historique qui sera l'automne, avec la fin après ces années de l'ère Merkel, la responsable européenne qui est depuis le plus longtemps au pouvoir et qui a marqué non seulement son pays mais aussi le destin de l'Europe durant ces années. Ce qu'on peut dire, c'est que quel que soit le dirigeant de l'Allemagne après les élections et la coalition qui sera au pouvoir, il n'y aura pas une remise en cause, bien sûr, du cours européen de l'Allemagne, comme ça pourrait être le cas l'année prochaine avec les présidentielles françaises. Mais il pourra y avoir des inflexions. Il est vrai que la présence assez probable, quelle que soit la constellation des Verts au pouvoir, va sans doute peut-être faire bouger les choses, puisqu'ils sont traditionnellement assez pro-européens, mais aussi ça peut signifier sur un certain nombre de dossiers des frictions plus importantes sur les dossiers énergétiques avec la France, sur les rapports avec des puissances comme la Chine ou l'URSS, où ils sont partisans d'un cours beaucoup plus rude, ou aussi pour les projets de défense européenne, où traditionnellement les Verts allemands ne sont pas énormément enthousiastes pour faire dans l'euphémisme.
Alors toutefois, les notions de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique, des notions très chères à Emmanuel Macron, est-ce qu'elles ont progressé en Allemagne ou pas vraiment ?
Oui, elles ont progressé. C'est vrai que c'est pas forcément des mots qui traditionnellement étaient dans la bouche des responsables allemands, à droite comme à gauche, où on a peut-être une vision moins politique, géostratégique, géopolitique de l'Europe et de sa place dans le monde. Et quand ce qui concerne justement la place dans le monde et les rapports avec d'autres puissances, notamment avec Angela Merkel, on a bien vu, voir la Chine par exemple, que les relations économiques jouer un rôle important, pour ne pas dire primordial. Mais les choses évoluent que ce soit la politique européenne, mais aussi sur les projets industriels. Le mot de politique industrielle était longtemps un gros mot en Allemagne, où le rôle des entreprises et du marché était d'abord primordial. Donc on sent qu'on a pris conscience ici qu'un certain nombre d'inflexions sont nécessaires, ce qui rend, il faut le dire, la coopération avec le premier partenaire, la France, et le développement de projets communs sans doute plus facile qu'il y a quelques années.
Merci Pascal Thibault, RFI Berlin. Elena Petaisto, à Helsinki, a-t-on déjà évoqué cette conférence sur l'avenir de l'Europe et l'avenir européen vu de Finlande? Ça ressemble à quoi? Plus ou moins d'Europe?
Alors, en résumé, je dirais qu'en Finlande, l'avenir de l'Europe n'est pas un sujet du tout. Il n'y a absolument aucune discussion en cours là-dessus. Et le paradoxe, c'est que la Finlande est un des pays quand même où l'Europe est le plus acceptée. Il y a encore très récemment, plus de 80% des gens étaient pro-européens. Et encore maintenant, malgré l'opposition contre ce plan de relance qui est tellement reproché de tout, 70% des Finlandais sont toujours restés pro-européens. Par contre, 60% des citoyens pensent que l'Europe va dans la mauvaise direction et donc on veut plutôt garder le statu quo ou plutôt faire même marche arrière et limiter les compétences actuelles de l'Europe, où on ne voit pas la valeur ajoutée pour l'Europe. Pourtant, il faut quand même dire que 74% des Finlandais soutiendraient la politique commune de défense. Là, il y a une raison très logique aussi, évidente, la frontière de 1200 km avec la Russie. Mais je pense que les gens ne croient pas trop dans l'avenir de défense commune. Mais 74% pensent que l'opinion des citoyens devrait être mieux prise en compte dans tout ce qui concerne l'avenir.
Donc on retient que la Finlande fait partie des pays plutôt partisans du statu quo. Merci Elina Pitaisto Helsinki, la télévision finlandaise MTV. Sacha Mitchell, alors du côté des îles britanniques, alors quel regard porte-t-on désormais sur l'Union européenne? Alors ça dépend de quelle île on parle, l'Irlande ou la Grande-Bretagne, c'est pas tout à fait la même chose. À Londres, est-ce que plus que jamais l'Union européenne est traitée à la rubrique politique étrangère? Est-ce qu'on s'intéresse encore à l'Union européenne ou plus du tout?
Alors, officiellement, la position du gouvernement de Boris Johnson, c'est la page du Brexit est tournée. Concentrons-nous maintenant sur une relation la plus constructive possible avec nos voisins européens. Dans la presse pro-Brexit, notamment conservatrice, c'est un peu une autre histoire. Premièrement, parce que en fait, il faut continuer à montrer que le Brexit était une bonne idée, que le Brexit valait le coup. Donc dans le cadre de la campagne vaccinale, ça a été un petit peu un festival, avec la fierté d'avoir pu mettre au point un vaccin avec l'université d'Oxford et l'entreprise AstraZeneca britano-suédoise. Et puis on cherche dans le même temps, on est à l'affût du moindre petit faux pas européen, du moindre signe un peu de mauvaise santé économique. Par exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière autour de l'île de Jersey, là aussi les tabloïds notamment s'en sont un petit peu délectés. Donc on garde bien sûr un œil attentif à ce qui se passe et à l'évolution de la situation au niveau de l'UE. Et puis il faut aussi le rappeler, en réalité le Brexit, il n'est jamais vraiment fini. Il y a des discussions qui se poursuivent à propos des services financiers. On discute aussi entre Bruxelles et Londres pour ajuster le protocole sur l'Irlande du Nord, qui a créé des tensions en Irlande du Nord ces dernières semaines. Il y a la question de Gibraltar aussi, qui n'est pas tout à fait réglée. Madrid et Londres ont une position commune. Il y a eu un accord bilatéral fin décembre, mais il faut encore que ce soit entériné au niveau de Bruxelles. Donc l'Union européenne reste dans l'actualité, reste dans les esprits quand même à Londres.
Merci Sacha Mitchell, courrier international. Joël Le Pavou à Budapest, je vais caricaturer un tout petit peu, mais on a l'impression que lorsque Viktor Orban évoque l'avenir de l'Europe, il regarde plutôt du côté de Moscou ou de Pékin.
Il regarde du côté de Moscou et de Pékin, mais il regarde aussi de son propre côté politique, puisque le 1er avril, Orban recevait le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et Matteo Salvini lors d'un sommet où les trois dirigeants annonçaient une renaissance européenne, une alliance continentale, un genre de partenariat idéologique défendant la chrétienté, la famille et la souveraineté nationale, des valeurs qui sont chères à Viktor Orban, que ce soit en Hongrie ou sur l'échiquier politique européen. Et puis surtout, Orban, il regarde en dehors du PPE désormais, puisqu'il avait voulu, au cours de ces 10 dernières années marquées par d'énormes conflits à Bruxelles, notamment autour de la question de l'état de droit, il avait voulu droitiser le PPE, mais peine perdue, il n'a pas réussi à mener son agenda politique, même si le PPE s'est un petit peu radicalisé, notamment sur l'immigration. Reste que aujourd'hui, avec cette renaissance européenne, Orban veut peser sur la conférence de l'avenir de l'Europe et mieux défendre les chrétiens démocrates, les vrais chrétiens démocrates, comme il le dit, qu'il considère orphelins de représentation politique à Bruxelles. Et au-delà même de Morawiecki et de Salvini, aujourd'hui, il se pourrait même que le Fidesz se rapproche du Rassemblement National, hypothèse qui avait été écartée jusqu'ici par Viktor Orban, puisque Katalin Novak, qui est non seulement la vice-présidente du Fidesz, mais aussi la responsable des relations internationales du parti majoritaire en Hongrie, annoncé début mai qu'il y avait eu une discussion, un échange qui avait été mené avec Jérôme Rivière, donc le chef de la délégation française du groupe Identité Démocratie, hein, donc le groupe, on va dire, populiste au sein du Parlement européen.
Le groupe donc, au siège des députés du Rassemblement national.
Voilà, le groupe au siège des députés du Rassemblement national, mais aussi ceux de la Lega de Matteo Salvini. Donc Orban cherche poursuivre, en tout cas entretenir son propre avenir politique au Parlement européen, encore que il y a des élections législatives l'année prochaine en Hongrie, et il se pourrait qu'en cas de défaite de Viktor Orban, même si le scénario paraît improbable jusqu'à présent, peut-être que les relations s'amélioreraient, sait-on jamais, ou redeviendraient plus cordiales entre Bruxelles et Budapest.
Merci Joël Le Pavou à Budapest. Et j'ai voulu terminer par vous, Paolo Olivier Rome, car je sais, en tout cas j'espère que nous allons terminer sur une note optimiste, les Italiens vont être les principaux bénéficiaires du plan de relance. Est-ce qu'ils ont repris confiance dans l'Europe? Ils avaient un peu perdu confiance lors de la première crise, dans un petit peu la grande débandade européenne de cette première crise, de cette première vague au début de l'année 2020. Où en est-on maintenant de la confiance des Italiens dans l'Europe, et qu'est-ce que ça veut dire l'avenir de l'Europe d'un point de vue italien?
Disons qu'il y a l'impression ici en Italie qu'on tourne une page, disons, d'euroscepticisme très très marqué qui a été protagoniste des dernières années. Tout le monde se souvient des Salvini, du mouvement 5 étoiles qui soufflait sur les braises, voilà, de l'euroscepticisme. Maintenant, il y a un petit peu un retour, disons, à la traditionnelle europhilie des Italiens qui, selon tous les eurobaromètres depuis la création de cet indicateur, ont toujours été parmi les peuples les plus europhiles d'Europe. C'est vrai que avec premier bénéficiaire du plan de relance de 750 milliards d'euros, voilà, et ça a beaucoup marqué les esprits, et aujourd'hui voilà, il y a une confiance qui est en train de se rétablir, et aussi une nécessité historique, parce que c'est vrai que l'impression est celle qu'aujourd'hui on est face à un alignement de désastres assez extraordinaire avec Mario Draghi, avec Emmanuel Macron aux manettes, et cette conférence de l'Europe, il y a vraiment la possibilité, en tout cas c'est l'espoir, de changer enfin, disons, l'Europe de la rigueur, celle de Maastricht, des fameux 3%, etc., et de donner vie à une réforme du pacte de stabilité qui pourrait, voilà, façonner l'Europe de demain. Ici, je pense par exemple au chef du Parti démocrate, le parti de centre-gauche, Enrico Letta, qui demande à grande voix, par exemple, la suppression du droit de veto des États membres. Ça pourrait certainement être un des éléments, des enjeux
le vote à l'unanimité qui paralyse beaucoup la vie de l'Europe, notamment sur le plan fiscal.
Absolument, et aussi la réforme du pacte de stabilité pour
les fameux 3%.
Les fameux 3% et le 60% de dette, pour donner vie enfin à une Europe plus fidèle, disons, au message initial de nos pères fondateurs, qui n'était pas celui d'une Europe supermarché à la britannique ou libérale, mais une Europe de la solidarité, de la fraternité, plus politique et plus sociale. Donc c'est vraiment aujourd'hui le moment pour le faire. C'est maintenant ou jamais, et c'est pour ça que cette conférence, cette plateforme où tous les citoyens peuvent intervenir via Internet pour faire leur proposition est vraiment une occasion historique à laquelle tout le monde devrait participer. D'autant plus que Emmanuel Macron va prendre la présidence tournante de l'Union européenne au premier semestre de 2022. Donc c'est vraiment le moment ou jamais, si on le veut, de penser à un avenir d'une Europe différente, plus sociale, plus attentive à la croissance, plutôt qu'à celle de la rigueur. Je vous rappelle, tout le monde dans dans les pavés, dans les rues de Rome, de Paris, pendant des années, ont pesté contre l'Europe de la rigueur. Si on veut la changer, c'est vraiment maintenant l'occasion pour le faire. Ça, c'est, disons, l'état d'âme qui domine actuellement en Italie.
Merci, Paolo Olivi, l'agence italienne de presse ANSA à Rome. Merci à Joël Le Pavou, à Budapest, Sacha Mitchell, Courrier International pour les îles britanniques, Elena Petaisto, Helsinki, et Pascal Thibault et Réfi Berlin. Merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée, et par exemple Google, Apple ou Deezer. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescalou, que vous soyez à Budapest, Rome, Berlin, Londres, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Ce dimanche,